Alors je vais faire la prédication en plusieurs étapes. Le temps a déjà passé. J'ai l'habitude de prêcher en règle générale entre 35 et 40 minutes. Je vais peut-être diviser ma prédication en plusieurs fois. En tout cas, je vais donner le titre pour aujourd'hui, qui aura une deuxième partie la semaine prochaine. Mais nous allons aborder donc la continuité. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, et le titre du message ce matin, c'est « Seigneur, donne-moi tes secrets ». Et vous allez voir assez rapidement au cours de la lecture que nous allons faire ce matin que le Seigneur, parfois, prenait ses disciples à part. Il leur disait d'aller il ne parlait pas forcément devant tout le monde, et le Seigneur donnait des secrets à ses disciples qui n'étaient pas révélés forcément aux scribes, aux pharisiens, qui n'étaient pas forcément révélés à la foule en règle générale. Et bien sûr que le Seigneur, quand il donnait ses secrets, eh bien, c'était dans un but, non pas de les révéler dans l'immédiat, mais après, par la suite, il leur disait certaines choses qui ne devaient pas être dites de suite. C'est comme vous, parents, quand vos enfants viennent vous voir et vous disent « Maman, j'ai un secret à te dire. » En règle générale, quand votre enfant vient vous voir et vous dit « J'ai un secret à te dire », maman, papa, vous ne révélez pas, n'est-ce pas, le secret de vos enfants. À moins que vous avez Facebook ou chat ou autre chose, et que dès que votre enfant vous dit quelque chose, hop, de suite, il se retrouve avec son petit secret dans les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Mais en règle générale, quand on vous parle d'un secret, c'est discret. Vous devez le garder dans votre esprit. Vous devez le révéler à personne. C'est exactement la définition du petit Robert. Le petit Robert nous dit ceci: un secret est un ensemble de connaissances et d'informations qui doivent être réservées à quelques-uns et que les détenteurs ne doivent pas révéler. À votre avis, est-ce que les disciples ont gardé ce secret?
Non.
Non. Hein? On va le voir au travers de la parole de Dieu qu'il y a certaines choses qu'ils entendaient, mais qu'un jour, ils vont révéler à l'humanité les secrets que le Seigneur leur a donnés. Laissez-moi vous parler d'un riche marchand américain. Un marchand américain d'art, très riche, multimilliardaire. Il a décidé de cacher dans le nord de l'Amérique un trésor du côté de Santa Fe. Il a mis son trésor dans un coffre de bronze. À l'intérieur de ce coffre est rempli de pièces d'or, de saphir, de rubis, d'émeraudes, de bijoux précolombiennes issues de sa propre collection. Il a lancé un défi au monde. Il a dit à un moment donné, si vous voulez ce coffre, il va falloir le chercher. Il va falloir vraiment vous donner de la peine pour trouver ces 2 millions de dollars que je viens de mettre dans ce coffre. Alors il leur a dit gentiment, il a dit, voilà, j'ai caché ce coffre, il est bien caché, ce coffre, dans les collines américaines, les rocheuses américaines, et il leur a donné 9 indices par le biais de ce trésor, et ces 9 indices sont notés dans un poème de 24 vers qui doivent décoder, donc le premier vers. Ensuite, le premier va décoder le deuxième va décoder le troisième, etc., etc. Et normalement, ça doit vous apporter au coffre que ce monsieur a enterré. Il a fait cela en 2010. Depuis cette date-là, 350 000 personnes ont tenté de mettre la main sur le magot. Le magot n'a pas toujours été trouvé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore des personnes, ils ont montré un reportage récemment à la télévision, même des Français sont partis pour aller chercher le magot. Tu parles, celui qui le trouve va trouver fortune. Mais il faut savoir aussi que cette annonce a fait perdre la vie à certaines personnes. C'est-à-dire que depuis que ce monsieur a fait l'annonce publiquement, eh bien certaines personnes sont allées avec des revolvers, et que quand ils ont rencontré une personne qui était peut-être au pied du lavabo, eh bien ils se sont tués. Alors, c'était pas l'intention du riche américain. Mais aujourd'hui, cette histoire de magot, cette histoire de trésor, fait une grande polémique aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, même certains ont déclenché donc la pensée de dire à ce monsieur, donne-moi ton secret pour que je puisse trouver le magot. Donne-moi l'endroit pour que je puisse aller chercher ce magot. Et eh bien, il ne donne pas, il a dit publiquement, il a dit, j'y suis pour rien, moi si les gens se tuent les uns les autres, moi j'ai donné des indices, le trésor est bien caché, donc débrouillez-vous vous-même pour trouver ces choses-là. Eh bien, nous avons dans la parole de Dieu, en tout cas, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va donner quelques secrets spirituels à ses disciples qui étaient là, qui étaient en train de l'accompagner. Et c'est important de regarder un petit peu au travers de ces enseignements que le Seigneur donnait, parce que quelque part, ces indices que le Seigneur va donner, il va leur demander de garder le silence pour un temps. Et ensuite, eh bien, quand le Seigneur va partir, il va leur dire, eh bien, maintenant, allez annoncer, dites à l'humanité ce que je vous ai dit dans le secret. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament. C'est-à-dire le Nouveau Testament n'a pas été écrit pendant la période que Jésus-Christ était là avec les disciples. Matthieu et Jean et d'autres personnages ont écrit la parole de Dieu, même Paul a écrit la parole de Dieu, après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que vous avez dans la parole de Dieu aujourd'hui, en tout cas dans la partie du Nouveau Testament, a été écrite après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur veut nous révéler ses secrets. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois on a besoin de comprendre ce que Jésus a confié à ses disciples pour que nous puissions comprendre les secrets spirituels que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le premier secret, et je m'arrêterai en tout cas dans une partie de ce premier secret, pardonnez-moi, je ne peux pas prendre plus aujourd'hui, mais le premier secret, c'est que la souffrance conduit à la gloire. Ça, c'est le premier secret que le Seigneur va confier à ses disciples. Il n'y a pas de chemin sans la croix de Jésus-Christ. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre cela dans notre vie quotidienne. Je pense que les disciples ont dû comprendre cela. Le Seigneur a parlé à ses disciples, a dit certaines choses à un moment donné à ses disciples. Certaines, comme vous allez voir, vont se rebeller un petit peu vis-à-vis de la situation. Et le Seigneur va les remettre en place. Parce que il n'y a pas de chemin sans la croix. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui avons compris que Jésus-Christ est le sauveur du monde, nous devons aussi comprendre cela en tant que personne. Alors, on va regarder, si vous voulez, les quelques versets à partir du chapitre 8, et je vais lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. J'espère que je vais pouvoir avancer un petit peu, pardonnez-moi, mais je vais être obligé de couper un peu aujourd'hui. C'est un peu frustrant, je ne sais pas vous, mais vous savez, quand vous êtes devant un plat, et que vous savez que vous ne devez pas le finir pour diverses raisons, hein. Vous savez, si vous me mettez devant un plat de spaghetti, je vous l'ai déjà dit, hein. Le plat de spaghetti prendra plus d'importance que pour le reste. Hein. Mais quand le plat de spaghetti, vous devez le quitter pour aller faire je ne sais pas quoi, ben moi je peux comprendre des fois, hein, que c'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Je suis frustré parce que je ne pourrais pas terminer mon plat de spaghetti. Mon exhortation, enfin, j'ai fait la comparaison avec l'exhortation de ce matin. Je n'arriverai pas à la terminer, mais rassurez-vous, venez dimanche prochain, je la finirai. Verset 27. Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Seigneur, le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Donc c'est assez particulier ce qui vient de se passer là. Pierre vient de confesser publiquement que Jésus est le Seigneur. Mais le Seigneur va leur dire, écoute, tu gardes cela en secret pour toi. Enfin, vous gardez cela en secret pour l'instant pour vous. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce secret va être révélé. Le magot va être trouvé à un moment donné. Et l'indice que le Seigneur va leur donner à un moment donné, il va leur montrer clairement certaines choses pour que un jour, cette chose-là puisse être révélée. Mais en attendant, ils devaient garder le secret. Ce n'est pas toujours le cas des êtres humains, n'est-ce pas? Bien souvent, on nous confie des secrets. Et puis, mécaniquement, on prend notre téléphone. Tu sais ce qui se passe à côté? Et puis, on révèle les choses naturellement sur certaines choses que les gens nous ont confiées. Eh bien, là, le Seigneur veut que vous fassiez mécaniquement, que vous preniez votre téléphone et que vous dites le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est cette ville de Césarée de Philippe? Alors, j'ai pris une grande carte. Il y avait une grande carte en haut. Je veux que vous voyez, que vous montrer un petit peu où ça se passe, cette affaire. D'accord? Alors, Jésus a voyagé un petit peu de partout, dans toute cette région. D'accord? Et on nous a parlé à un moment donné de Tyr et de Sidon, ici, la Décapole, ici. Maintenant, il se trouve exactement ici. Et on se peut se poser la question, pourquoi il va prendre le temps dans cette ville-là pour révéler à ses disciples certaines choses par rapport à sa future, je dirais, mort à Jérusalem. Il aurait pu le faire en Galilée, dans sa terre, où ce qu'il a vécu pendant un certain moment. Il aurait pu le faire dans son lieu de naissance. Il aurait pu le faire à Bethléem. Il aurait pu le faire dans d'autres endroits. Non, il a décidé de le faire à Césarée de Philippe. Alors j'ai regardé durant la semaine à Césarée de Philippe. Où ça se trouve, Césarée de Philippe? Donc je voulais montrer, mais je voulais voir un peu si la ville existait encore aujourd'hui. Si vous allez à Césarée de Philippe, c'est une très belle ville moderne qu'il y a là, juste à côté, hein, parce que Césarée de Philippe, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si vous y allez, vous avez de magnifiques ruines que vous pouvez visiter. Donc le lieu est un lieu archéologique. Vous pouvez voir les ruines de Césarée de Philippe. Avant, c'était une ville qui était dédiée à César Auguste et à Hérode Philippe. Il y avait un magnifique temple de marbre qui était ici érigé au nom d'Auguste. Et tout était pour la gloire de Rome. Donc vous comprenez que l'endroit où c'est que Jésus va révéler à ses disciples un secret, eh bien cette ville, aujourd'hui qui est une ruine, hein, donc on peut la visiter aujourd'hui, mais tout était à la gloire de Rome. C'est-à-dire que quand vous rentriez dans cette ville, comme dans beaucoup d'endroits que vous visitez aujourd'hui en Israël, eh bien tout était dédié à Rome, à la gloire de Rome. C'est-à-dire que quand vous rentriez, si vous voulez savoir si la personne était un citoyen romain, bien il fallait prononcer avec César, ou le César est le Seigneur. Et le Seigneur va faire la même chose, mais complètement différent. Le Seigneur veut que, dans le cœur des disciples, ils comprennent que la confession, et j'ai beaucoup apprécié le témoignage d'Abraham ce matin, parce que, quelque part, on l'a peut-être oublié, ou même nos églises ont peut-être oublié, l'importance de la confession. Et je pense que quand Jésus pose des questions à ses disciples, il voulait exactement savoir ce qu'il pensait, ce que le monde pensait de lui, de l'époque. Ceux qui sont mariés, dans cette salle. Je suis persuadé que si votre femme ou votre mari vous dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Vous n'allez pas, enfin vous allez attendre, enfin j'espère que vous attendez de sa part une réponse. En règle générale, mesdames et messieurs, vous ne faites pas, écoute, tu m'as posé une question, chérie, laisse-moi dormir ce soir, parce que la nuit porte conseil. Et demain matin, au petit déjeuner, j'aurai toutes mes neurones. Vraiment, elles seront alertes pour te répondre en toute honnêteté ce que je pense de toi. N'est-ce pas, vous ne faites pas ce genre de choses. Et j'espère que vous, même en tant que personne, si on vous pose cette question, chérie, m'aimes-tu? Je pense que vous attendez de sa part une réponse assez rapide. Parce que s'il vous dit, écoute, demain matin, là je ne suis pas très en forme, hein, mais demain matin je te donnerai une réponse. Je suis persuadé que vous allez passer une mauvaise nuit. Enfin, on n'a jamais fait ce coup-là. Ça me permet de bien dormir, d'ailleurs. Mais vous allez passer une mauvaise nuit. Vous allez vous mettre plein de trucs dans votre esprit. Est-ce que réellement ma femme m'aime? Est-ce que mon mari m'aime réellement? Vous attendez, n'est-ce pas, une réponse de la part de votre conjoint ou de votre conjointe? Eh bien, le Seigneur attendait vraiment une réponse de la part des disciples. Alors, on peut penser que c'est un peu orgueilleux de la part du Seigneur de poser cette question. Que pense le monde de moi? Que disent les gens que vous avez rencontrés de moi? Alors, certains disent, moi, je n'ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Ça, c'est ce qu'on pense parfois dans notre esprit. Mais votre chef, là où vous travaillez, a sûrement tout un dossier sur vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a tout un dossier sur vous. Il sait exactement ce qu'il doit faire avec vous ou pas. Si vous êtes une personne colérique, sûrement, il a dû noter. À un moment donné, fais attention à ta manière de parler avec telle ou telle personne, parce que si tu agis de telle manière avec lui, il va faire de cette façon-là. Et chaque personne a une pensée sur l'un et l'autre. Je suis persuadé que vous avez une pensée sur moi. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre pasteur ou de son épouse. Il y a certaines personnes qui m'ont confié au terme, Nicolas. On t'adore, on prie pour toi. Oui, il y en a certaines qui me l'ont dit, pas tous. Mais j'attends pas de vous cela. Enfin, je vous le dis franchement, j'attends pas de vous cela. Mais on a besoin parfois, comme le Seigneur le montre bien, de savoir ce que le monde pense. Et votre voisin sûrement pense quelque chose de vous. Vos amis, vos parents, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans votre cœur, ont sûrement une pensée par rapport à vous. S'ils n'appartiennent pas à l'Évangile, eh bien certaines personnes ont sûrement une pensée pour vous. Certains vont changer carrément de trottoir. Depuis qu'ils savent que vous êtes dans l'Évangile, ils ont pris la décision de changer de trottoir. Certains vont peut-être avoir une pensée, waouh, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui vit vraiment sa foi, je le vois au quotidien. L'autre jour, j'avais un problème, elle est venue, elle a topé à ma porte, et elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Voyez-vous, il y a des tas de gens qui ont des pensées sur vous, que vous le vouliez ou pas. Que dans votre esprit, vous vous attendez ou pas. Vos enfants pensent quelque chose de vous. Vous pensez quelque chose de vos enfants. Vous les connaissez. Certains vont dire, ah oui, mon parent, mes enfants sont, celui-là il est un petit peu colérique, alors il faut que je prenne un peu des pincettes, parce que si je ne prends pas des pincettes avec celui-là, il va me faire ses 400 coups. Vous avez des enfants qui sont très doux, très gentils, très mignons. Ça, c'est tous les parents qui voudraient avoir des enfants comme ça, très mignons, très doux, très gentils. Vous lui dites, à table, de suite, il vient à table.
Et puis deux minutes après, mais non, j'étais bien à table. C'est l'heure de manger. Vous avez des enfants, vous savez, ils sont très mignons entre nous. Et vous avez une attitude vis-à-vis de ces enfants, n'est-ce pas? Avec le colérique, vous allez agir avec le colérique. Hein. Avec le gentil, vous allez agir de manière différente. Hein. Eh bien, le Seigneur attendait vraiment des réponses par rapport aux personnes qui étaient là avec lui. Alors, c'est un peu étonnant de voir les réponses des gens. Tout d'abord, la première confession de la part de Pierre, qui va publiquement dire que le Seigneur est le Seigneur, eh bien, en posant cette question, il va y avoir des personnes qui vont venir le voir, donc les disciples. On ne sait pas exactement qui va faire quoi là, dans cette histoire, hein, mais il y a certains qui vont lui dire « Oh là là, le monde pense que tu es Jean-Baptiste. » Alors, vous connaissez Jean-Baptiste? La Bible nous dit qu'il avait des vêtements de poils de chameau, manger des sauterelles et du miel. Il avait une ceinture de cuir. Je viens de le lire juste quand on était en train de regarder la présidence. Voilà comment était habillé le vêtement de la mode de l'époque de Jean-Baptiste, vêtement de poils de chameau. La question que je me suis posée, il y a un moment donné, ils ont vu Jean-Baptiste et Jésus ensemble. Beaucoup l'ont vu. Pourquoi dire que Jésus ressemblait à Jean-Baptiste? Jésus ne ressemblait pas du tout à Jean-Baptiste. La Bible ne nous donne pas la mode de l'époque de Jésus-Christ, mais on le sait, certains avaient des vêtements un petit peu longs, il y avait une certaine façon de s'habiller, mais Jésus n'était pas du tout habillé de l'époque comme Jean-Baptiste, il n'était pas du tout habillé, il l'avait vu, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit de la puissance d'Élie, nous dit la parole de Dieu, il ne faisait pas de miracles. La Bible nous dit que Jean-Baptiste ne faisait pas de miracle, il appelait à la repentance. Et donc, l'attitude des gens, eh bien, c'est que Jésus égale Jean-Baptiste. Vous pouvez imaginer un petit peu la confusion des gens de l'époque. Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Hein. Demandez à qui que ce soit à l'extérieur de ce bâtiment qui est Jésus-Christ. Un jour, on a fait une petite enquête à côté de l'Institut d'Algrange. Et on est allé avec un petit papier en disant « On voudrait vous poser quelques questions sur Jésus. » Il y a une mamie, alors, mais de tout son cœur. Il y a quelqu'un de nouveau dans la ville? Mais vraiment de tout son cœur. Elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle disait. Non, non, il y a quelqu'un de nouveau dans la ville. Et nous, on voulait lui poser des questions par rapport à Jésus. Mais voyez-vous, l'être humain a exactement la même attitude des disciples. C'est-à-dire que quand vous posez la question sur Jésus, eh bien, il y a des tas de pensées qui vont fuser par rapport à cela. Et les premiers, c'était l'affaire de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jésus était égal à Jean-Baptiste. Mais Jésus n'a jamais été Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait une œuvre particulière. Le Seigneur Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour faire une œuvre particulière, mais Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Deuxième pensée qui ressurgit par rapport à la réponse. Les autres, Élie, et les autres, les prophètes. J'imagine sûrement qu'ils ont fait appel dans leur conscience de certains prophètes qui venaient dans le passé, qui annonçaient toutes sortes de pensées par rapport à Jésus-Christ. Et des fois, on peut se dire, mais ces prophètes ont agi un petit peu comme Jésus. Quand vous regardez, par exemple, le prophète Jérémie dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que quand il allait annoncer la nouvelle de la venue de Jésus-Christ, ou quand il annonçait certaines choses à Israël, à la nation d'Israël, la Bible nous dit que Jérémie était un prophète qui pleurait. Donc il s'est retrouvé en prison pour sa situation. Les pharisiens l'ont enfermé. C'est vrai qu'il y a parfois des similitudes. Je parle de trop. Vous m'avez compris. Donc il y a parfois des choses qui arrivent comme ça, que les textes, on peut dire, mais c'est un petit peu pareil. Mais il était mal compris à l'époque. Quand il annonçait certaines choses à la nation d'Israël, il était mal compris. C'est pour ça qu'il a été mis en prison. Et je me dis, parfois, on a aussi la même confusion par rapport à ça. Tu crois en Jésus, toi? Mais c'est les enfants qui croient en Jésus. Tu ne peux pas croire en Jésus, ce n'est pas possible. Et pourquoi la parole de Dieu nous demande de faire cette confession comme Pierre l'a fait? Nous sommes appelés, en tant que personne, publiquement à confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Si vous ne le faites pas, ici-bas sur cette terre, n'attendez pas l'éternité, ça sera trop tard. C'est pas quand vous serez dans l'éternité que vous devez confesser que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. C'est maintenant que vous devez confesser que Jésus-Christ est le Messie et le Sauveur du monde. Pourquoi le Seigneur a-t-il recommandé de ne parler de cela à personne? Je vais m'arrêter là pour ce matin. Eh bien, je pense qu'il y avait une telle confusion dans la tête des gens de l'époque que annoncer maintenant, là, à tout le monde que Jésus était le Messie, c'était pas encore l'heure. C'était pas encore l'heure que Dieu avait choisie. Et je pense que voilà un bon raisonnement dans notre esprit. Le Seigneur a donné des secrets à certaines personnes, donc entre autres les disciples, mais les disciples ne devaient pas encore révéler ce secret tant que le Seigneur ne serait pas retourné chez son Père. Tant que le Seigneur n'est pas retourné chez son Père, donc après la résurrection, le Seigneur est monté vers son Père. Tant que le Seigneur n'était pas monté vers son Père, il ne devait pas révéler le secret. Voilà un indice que nous devons comprendre. Vous connaissez ce secret. Est-ce que vous devez attendre votre mort pour confesser que Jésus-Christ est le Seigneur? Ben non. C'est maintenant, la Bible dit que c'est aujourd'hui, si vous entendez, la Bible c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion à avoir dans votre tête. Et si vous avez des confusions dans votre esprit, le Seigneur dit clairement que sa venue ici-bas, sur cette terre, elle avait un but bien précis. Sa venue était pour mourir sur la croix pour nos péchés. Si vous comprenez cela, la Bible dit de vous repentir et de croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Pierre l'avait bien compris. Vous allez voir assez rapidement, je vous en donne un peu quelques indices pour la prochaine fois, que malgré le fait qu'il ait compris certaines choses, Pierre, il va tomber assez rapidement, parce que le Seigneur va lui dire, regarde-moi Satan, parce que Pierre ne voulait pas que Jésus parte. Moi, je sais pas vous, j'ai pas vécu à l'époque de Jésus, mais Jésus faisait des miracles, il multipliait des pains, il multipliait des poissons, c'était vraiment la supérette gratuite. Et il y a des gens qui venaient vraiment tous les jours pour dire, ah ben oui, on veut voir les miracles, on veut voir ce que tu fais. Mais avoir Jésus à côté de soi, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas vous, mais avoir Jésus à côté de soi, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que Jésus, aujourd'hui aussi, qu'il est? La Bible nous dit qu'il est auprès du Père. Mais la Bible nous dit aussi que le Seigneur vous a donné une promesse. La Bible nous dit que demain, là où c'est que vous serez, Jésus est avec toi. La Bible dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a promis à ses disciples. Et nous devons prendre conscience aussi que demain, là où c'est que vous êtes, Jésus-Christ sera à côté de toi. Quand tu devras prendre une décision, quand tu voudras entendre de la part de ton mari ou de ton épouse, est-ce que tu m'aimes? Ne t'attends pas forcément à une magnifique réponse de la part de ton prochain, mais attends-toi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne te décevra jamais. Et je pense que bien souvent, on est déçu par les êtres humains. Bien souvent, quand on regarde certains passages comme ça, on peut se poser la question, on peut se dire, mais c'est drôle de voir que Pierre va confesser que Jésus-Christ est le Sauveur, et puis quelques minutes après, eh bien, le Seigneur va lui dire, regarde-moi Satan, parce que sa pensée n'était pas selon l'Esprit de Dieu. Et on agit parfois comme cela. Alors attendez-vous au Seigneur quand vous avez de la confusion, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je termine là, c'est le premier indice en tout cas que je voulais partager avec vous. Amen.